Warning. Si vous n'avez pas encore vu le film qui suit et que vous ne voulez pas que l'intrigue vous soit dévoilée, arrêtez ce podcast maintenant. On vous aura prévenu.
So what's this test supposed to do?
Just say the first thing that comes to your mind. Father.
I was a baby when he died in that fire.
Rage.
Ancient history.
Ascension.
Trap.
Уж не собираетесь ли вы учить меня смыслу жизни?
Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle.
The robots are coming.
I want more life. Fucker.
24 secondes.
Nous sommes le 3 avril 2016, bienvenue au 41e épisode de 24 Quarks Secondes, le podcast des mordus de cinéma de science-fiction, lors duquel nous repassons à travers des films et séries que nous avons aimés ou pas. Je suis Nicolas Petzilas et avec moi Marie-Louise Gariepi.
Salut.
Et vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur notre site internet 24quarks.com, de 4quarks.com, et sur iTunes. Et si l'envie vous prend de réagir à une discussion, de commenter, de nous faire des suggestions, etc., vous pouvez aussi nous contacter par courriel à 24quarks, toujours avec un S, at gmail.com. Aujourd'hui, on a décidé de s'attaquer à une mini-série. Il s'agit de Ascension, qui date de 2014, et qui est donc une mini-série de
sci-fi.
3 fois 1h30. Qui était sur sci-fi, oui, absolument.
C'était 3 fois 1h30, ouais.
3 fois 1h30, ouais, si je me
souviens. Sinon, non, 2h, ça fait 6h
ouais,
en tout.
6h au total avec
les pubs avec et les pubs, tout ça, c'est ça.
Donc, c'est
quand on la regarde sur Netflix, c'est un petit peu moins long.
C'est les séries événements, comme ils appellent ça. Les mini-séries événements, tu sais. Et ce qui avait été le cas aussi avec Battlestar Galactica, donc à l'époque, il y a eu aussi depuis, il y a eu, je crois qu'ils ont refait ça avec le nom m'échappe.
Mais Battlestar Galactica, c'était-tu vraiment une mini-série ou c'était pas un épisode long maintenant?
Non,
je pense que c'était un 2 heures.
C'était un 3 heures, il y a eu, ouais, c'était comme 2 épisodes d'une heure et demie, un truc comme ça.
C'est ça, 2 épisodes d'une heure et demie, ok.
Et qui avait eu un succès incroyable, qui était d'ailleurs génial, hein, on s'en rappelle. Et je l'ai revu d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, juste la mini-série, et puis c'est tellement bon.
C'est drôle parce que je me disais que je voulais que je réécoute Battlestar Galactica. j'avais oublié des détails.
Ouais, c'est ça. Donc, cette mini-série coproduction américano-canadienne.
Tournée à Montréal?
Entièrement tournée à Montréal. Quasiment entièrement tournée à Montréal, je crois. En tout cas,
parce que c'est censé se passer au Minnesota, il y a quand même eu des tournages là-bas, je pense des tournages extérieurs.
Mais le gros est fait à Montréal. Tous les intérieurs sont tournés à Montréal et quelques extérieurs sont tournés au Stade olympique aussi.
Ben, le Stade olympique, c'est là qu'il y a le...
C'est le gros bunker, oui, c'est ça. C'est le plan de bunker, c'est le Stade olympique.
Enfin, le Stade olympique sert à quelque chose. Ben, je dis ça, moi.
Mais en fait,
moi, je t'ai proposé cette série-là avant même de savoir que c'était tourné à Montréal. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, ben, d'autant plus pertinent d'en parler.
Ouais, absolument.
D'en parler.
Et alors, avant de se lancer à fond là-dedans, on va juste faire allusion à notre petit vin qui nous accompagne ce soir. Alors, c'est un vin chilien bio qui s'appelle... Comment on va prononcer ça? Je vais massacrer ça.
Ojo de pájaro.
Pájaro. C'est quoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pájaro. L'œil du pájaro, c'est quoi?
Ça doit être perroquet.
Le perroquet. L'œil du perroquet, c'est ça? Et en fait, c'est...
Ben, peut-être que c'est pas perroquet, je pense qu'il faut faire une petite recherche de traduction. Mais...
En fait, c'est l'image qui est sur l'étiquette qui m'a parlé, puisque comme on va le comprendre dans le résumé, et puis si vous avez déjà vu la mini-série, évidemment, vous savez de quoi je parle, le dessin sur l'étiquette, c'est une cage qui fait référence donc au vaisseau Ascension dans lequel se trouvent tous ces passagers, se trouvent enfermés ces passagers qui ne connaissent pas la réalité dans laquelle ils vivent. Autre chose avant de se lancer dans le
j'ai pas trouvé la traduction de Pajaro. Ah, j'ai mal fait, j'ai mis Parajo plutôt que
Pajaro.
Pajaro.
Ojo de pájaro.
Oiseau.
Oh, ok, oiseau. L'œil de l'oiseau, d'accord.
Voilà. Ben voilà, donc tous ceux qui parlent espagnol, qui rient de nous depuis tantôt,
voilà.
qui crient, oiseau, bon, on vient d'apprendre un mot. Ben.
Donc c'est un vin rouge. Un petit vin rouge chilien qui est fort sympathique d'ailleurs. Voilà, qui va nous accompagner.
Avec quand même pas mal de caractère.
Ouais, avec du caractère, absolument. Voilà. Et puis avant de se lancer donc dedans, je vais dans la mini-série, j'avais quelques petites plugs à faire. D'abord, je tiens à dire que
Ah oui, t'as des plugs à faire.
Là, on enregistre tous les deux avec nos hoodies du passager.
Yeah.
De passenger.
Enfin, qui ont été finis.
Voilà, on le porte fièrement, nos beaux hoodies rouges avec l'illustration dans le dos. Ça va être l'affiche?
Ah, je sais pas. On va voir. Okay. Parce que c'est clairement le document pour le développement. Donc, il y a d'autres choses qui s'en viennent.
Okay.
Pour ceux qui ont contribué puis qui doivent avoir comme une sorte de fond d'écran puis des choses comme ça, on va probablement se servir de cette illustration-là. Mais l'affiche, c'est un petit peu trop tôt encore pour se prononcer. Mais on est très fiers de l'illustration. On l'aime beaucoup. Donc,
tout le
monde est super content. Donc, ça se peut que oui, on le garde pour l'affiche. Ça serait
forte
possibilité.
Et donc, mis à part ça...
Mais juste pour dire, si jamais, par hasard, quelques personnes nous écoutent qui n'ont pas reçu encore leur hoodie, deux choses. Un, c'est parce qu'on n'avait pas reçu vos mensurations.
OK.
Et donc, c'était difficile pour nous de pouvoir vous envoyer votre hoodie. Et donc, là, tout est réglé. Et d'ici la fin de la semaine, on va envoyer ça. Mais c'est vraiment comme quatre personnes. Parce que sinon, on a envoyé... toute la batch à tout le monde. Donc, si vous n'êtes pas dans ces quatre personnes-là, il faudrait peut-être m'écrire parce que là, vous n'êtes pas entre les mains, là, du... Mais sinon, tout le monde a reçu fièrement son... Je vais juste dire
ça. En tout cas, il est super beau, super qualité, avec une belle illustration dans le dos. Voilà.
On a travaillé fort, c'est pour ça que ça a été long.
Voilà, on arbore fièrement nos couleurs rouges.
Voilà. La rouge, le rouge passager. Et vas-y, pas sur tes autres blogs.
OK. Sinon, bah, en fait, je voulais juste faire allusion à deux, trois petites choses. J'ai vu le film 10 Cloverfield Lane. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Il y a eu un marketing... On en a parlé il y a très peu de temps.
Mais il y avait Cloverfield au départ.
Il y a eu Cloverfield.
Qui lui avait un marketing, justement, de...
Voilà. Et donc là...
Viral, très intéressant.
Là, en fait, le principal élément de marketing, c'est le fait qu'il y a Cloverfield dans le nom. Parce que tu te dis, OK, il y a un univers Cloverfield dans lequel se passe un nouveau film, une nouvelle histoire. En tout cas, c'est ce que tout le monde se demande. Donc, je suis allé voir le film. Il était encore au cinéma. Là, il est sorti il y a peut-être, je sais pas, il y a une semaine ou deux, peut-être, je sais pas. C'est un premier film qui est produit par Bad Robot, donc la boîte de J.J. Abrams,
okay.
Qui avait évidemment produit le premier.
Mais c'est un premier film du réalisateur.
C'est un premier film du réalisateur, oui. C'est un premier film du réalisateur.
Parce
il s'appelle Dan. Le réalisateur, c'est Dan Trachtenberg, qui est un réalisateur de. Enfin, il a fait de la pub, il a réalisé des courts-métrages, dont un dont je pense qu'on avait parlé, qui s'appelle Portal No Escape, qui est ça a à voir avec le jeu Portal. C'est pas directement une adaptation du jeu Portal. Mais ça se passe dans cet univers-là, ou en tout cas avec des éléments du jeu Portal, et c'est un court-métrage excellent.
Ah oui, OK. Donc, lui avait fait un court-métrage là-dessus. Okay,
ouais,
bon.
C'est ça. Et puis, accessoirement aussi, c'était un animateur d'un podcast que j'écoutais à l'époque avec Jeff Canata, qui est maintenant au Slash Filmcast, puis qui s'appelait The Totally Rad Show, dans lequel il faisait des critiques de films, de jeux, de plein de trucs,
qui était très
sympa. Et puis donc, voilà, donc c'est quelqu'un que je suivais en fait par l'intermédiaire du podcast, puis... ayant découvert que c'est lui qui réalisait ça, j'étais encore plus intrigué, tu vois. Et donc, je suis allé voir le film l'autre soir.
Et là, on attend de savoir si c'était-tu bon.
Personnellement, j'ai adoré.
OK, hésitation,
mais je veux pas parler de l'histoire parce que je veux rien dévoiler. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un huis clos. Ce qui dévoile rien, parce que c'est dans la bande-annonce, c'est que c'est un huis clos avec trois personnages, dont John Goodman et Mary Elizabeth Winstead, qui sont comme dans un bunker et il se passe des choses bizarres à l'extérieur, on ne sait pas. Et c'est très bon. Il y a une tension extrêmement bien travaillée. Tout est bon. Le sound design est génial. Malgré que ça se passe tout au même endroit, dans un endroit petit, il y a une utilisation de l'espace, de cet espace restreint qui est extrêmement habile et qui tu ne tombes jamais dans la répétition. Et en fait, c'est toujours quelque chose de nouveau. C'est vraiment super intéressant. J'ai vraiment adoré, quoi. J'ai passé un super bon moment, c'est vraiment fun. Et puis j'espère que, je sais pas s'il va y avoir comme ça va donner plus de choses dans cet univers-là ou pas. mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup d'aller le voir, c'est vraiment
donc,
fun.
Donc Cloverfield.
10 Cloverfield Lane.
Ten
c'est
Cloverfield.
Au cinéma en ce moment, je l'ai vu l'autre soir au Scotiabank. C'est très sympa. Et puis sinon, j'ai découvert, l'autre jour, je browsais sur Amazon, et puis je tombe sur la section Blu-ray, et je découvre qu'il y a un Blu-ray du film Childhood's End. Je ne savais pas. C'était un film produit par Sci-Fi. Je pense que c'était aussi un genre de mini-série, d'ailleurs.
C'est ça, c'est une mini-série. C'est ça, j'ai vu passer ça dernièrement, qu'il y avait fait Childhood's End. Puis Childhood's les résultats étaient comme
Et je ne sais pas
moyen,
ce que ça vaut. Je me demandais si toi, tu l'avais vu par hasard. Parce que
Moi, j'ai adoré le...
Je sais que tu adores le livre.
J'aime beaucoup
Arthur Clarke.
Arthur C. Clarke. Ouais. C'est drôle parce que Childhood's End, c'est comme... Avant qu'il faisait du hard sci-fi, tu sais.
Okay.
Donc, c'est un petit peu étrange. Là, je suis en train de chercher sur Childhood's End. C'est ça, c'est une mini-série en 2015.
C'est sorti en 2015,
c'est récent. Ouais. C'est quand même côté 7 sur 10, donc c'est pas un échec. Mais j'ai été surprise qu'il fasse ça parce que c'est ça, c'est un de ses premiers livres, si c'est pas son premier. Puis c'est très ésotérique un peu sur les bords. Il y a comme quelque chose un peu qui est très différent de ce que Arthur C. Clarke a fait d'autre. Okay. Et lui a renié un peu ce livre-là d'ailleurs. Parce que Oui, parce que c'était à l'époque où est-ce que tu avais beaucoup de gens qui étaient des amoureux de la science, là, qui étaient des tripeux de science-fiction, etc. Puis qui s'intéressaient au ce qu'on appelait la parascience, là, je pense que c'est ça le mot, la parascience, ou est-ce que tu sais, il faisait il essayait de prouver la télépathie, la télékinésie, toutes ces choses-là. Puis donc, c'est une époque où est-ce qu'il y a eu comme un schisme après ça. Donc, à l'époque, tous les gens qui aimaient un peu la science, qui étaient intéressés par la vulgarisation scientifique, trippaient aussi sur la parascience. Tu sais.
Okay.
Et donc, Charles Tosin a vraiment cet aspect-là un peu qui est intéressant. Quand même, parce que, tu sais, je veux dire, tu as toutes sortes de science-fiction, mais c'est pas une science-fiction typique d'Arthur C. Clarke. Parce qu'après ça, lui, toutes les science-fiction qu'ils ont fait étaient très, ce qu'on appelle du hard science, c'est-à-dire qu'il faut que. Il prend des scientifiques qui ont des théories, puis il faut que ça soit quelque chose qu'on soit à peu près sûr que dans 30 ans, ça va avoir lieu ou que c'est possible. T'sais, il était très beaucoup plus proche. Bon, on s'entend-tu que 2001, on n'a jamais vu ça, tu sais? Mais c'était l'idée que c'était des technologies qui étaient possibles. Puis c'est vrai qu'une mission vers Jupiter, si on avait mis tout notre argent et une énergie dans le programme spatial, mais c'est juste qu'à un moment donné, les gens se sont... Lui, ce qu'il n'a pas pu prévoir, c'est qu'on se désintéresserait du programme spatial, là, ce qui est arrivé, là, parce qu'après le deuxième Apollo, déjà, tout le monde était comme « Bon, ben, c'est beau, la Lune, mais... on a des problèmes sur Terre, réglons-les, là, tu sais. » Et puis, évidemment, il n'y avait plus la course entre les Russes, puis... Donc c'est ça, tout ça pour dire que ça m'a surpris qu'il fasse ce choix-là, puis c'est aussi parce qu'en termes d'histoire, il y a un petit côté... C'est très... C'est un peu perturbant, en fait, comment ça finit, cette histoire-là. Donc, je sais pas. Ben, en même temps, c'est peut-être le ton. Hein. On a quelque chose, quand on regarde... Ben, on en parlait tantôt. The 100, tu sais, qui est comme post-apocalyptique.
D'ailleurs, je voulais faire allusion aussi.
Enfin, raison. Quand on regarde comme ce qui se fait en termes de sci-fi, c'est vrai que c'est souvent noir, tu sais. Puis il y a quelque chose de vraiment bizarre avec ça. Je serais très curieuse de l'avoir. Voir comment ils ont traité ça, puis comment ils ont vu ça.
Ouais,
mais c'est très... c'est vraiment pas... c'est pas de la sci-fi de Arthur C. Clarke, comme j'ai dit, puis c'est vraiment une sci-fi qui frise l'ésotérisme, tu sais, qui est un style intéressant aussi en tant que tel. Là. Il y a plein de choses. Moi, j'ai toujours adoré les histoires de mutants avec des pouvoirs bizarres, là. Donc, ça aussi, là, c'est un peu ésotérique comme sci-fi, là, tu sais, il y en a pour
en
tous
tout
les
cas, ça m'a bien étriqué. Je pense que je vais le commander, histoire de voir un peu ce que ça vaut, tu sais, à moins qu'on le trouve ailleurs sur Netflix ou quoi, ce que j'ai pas vu, mais voilà. Donc, je n'étais pas au courant que sci-fi avait produit ça.
T'as-tu fini tes plugs? Parce que moi, je vais en avoir une aussi.
Vas-y, 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 vas-y.
Je me force quand t'as tes plugs. Quand je te vois arriver, là, je passe très vite. Je me dis, j'ai-tu une plug?
Vas-y.
J'avais parlé le jour de la Saint-Valentin d'un film qui s'appelle Le Homard.
Oui.
Sur parce que t'étais partie à l'autre bout de la planète. Puis je me suis dit, il fallait bien que quelqu'un mette à jour le site Facebook de 24
Mais je me rappelle, ouais.
Et donc, il joue en ce moment à Montréal. Donc, si vous voulez aller le voir, moi, je ne l'ai pas vu encore, mais je veux absolument aller le voir. C'est avec Colin Farrell, puis ça a l'air vraiment très drôle. Là. C'est comme une science-fiction un peu à la... Genre, ben, un peu dans le style de Her, j'imagine, là, de Spike Jonze. C'est un truc romantique. C'est une société d'anticipation légèrement du futur où est-ce que tu as une agence de rencontre, puis si tu trouves pas l'amour de ta vie, ben, t'es transformé en un animal. Puis là, la fille lui demande quel animal tu veux, ben, il dit un homard. Alors, en gros, c'est une quête d'amour dans un futur où est-ce que si tu réussis pas ta quête, ben tu es désincarné ou réincarné dans un dans
drôle.
Un animal. Puis je crois pas que c'est un succès parce qu'on a entendu plus parler, mais je pense que ça a l'air d'être un film honnête, tu sais. Donc comme il est au cinéma de Beaubien en ce moment, j'ai tellement aucune raison de pas y aller parce que c'est tellement à côté de chez nous, puis tous les jours je me dis je vais y aller, mais malheureusement, je suis tombée dans The 100 comme j'ai dit tantôt.
Ah, oui, alors les 100, c'était un autre truc auquel je voulais faire allusion. Et en même temps, parce que ça c'est une approche différente du presque du même sujet que Ascension, dans le sens où ça a à voir avec la survie de la race humaine, c'est après.
J'avais pas fait le lien, mais t'as raison.
Moi, je voyais ça comme ça, en fait. C'est une autre approche encore, mais c'est dans un autre futur où, en fait,
mais c'est une autre
la race humaine, c'est.
C'est une préoccupation encore plus long terme, parce que dans 100, c'est juste la race humaine sur Terre, tandis que les autres, c'est la race humaine quand le soleil va exploser.
Dans The 100, ils reviennent sur Terre.
Non, mais c'est plus.
Après avoir vécu
ça.
Sur une espèce d'arche spatiale qui
permettait aux humains de survivre.
Voilà, mais qui, c'est plus le cas. Donc, ils sont obligés de tester, en fait, si la planète est viable, en fait. Ils y
c'est
retournent.
La planète
a été abandonnée depuis longtemps. Elle est comme revenue à l'état sauvage, puis ils sont en train de tester.
Mais toi, si tu viens de commencer, tu vas te rendre compte qu'il n'est pas si à l'état sauvage que ça, la planète.
J'imagine bien. J'imagine, m'en doute. Mais non, oui, effectivement, moi, je suis juste au début. Mais je vois qu'il y a un peu aussi ce côté, tu sais, la survie de la race humaine. Puis finalement, il y a un lien avec Galactica. Il n'y a plus qu'un lien, d'ailleurs, avec Galactica.
Faut pas spoiler 100. Mais je dirais qu'effectivement, mais il y a deux. Tu as raison sur le fait que c'est l'obsession de la survie de l'être humain. Ça, je trouve ça intéressant. Je voyais pas le lien, mais tu as 100% raison. Dans The Ascension, c'est vraiment ça le but de l'expédition.
Ouais.
Sauf que dans 100, c'est la survie de la race humaine après que les êtres humains aient démoli. Il y a eu une guerre nucléaire. Là,
voilà, puis ils ont dû quitter. Et là, des années, décennies, centaines d'années plus tard, ils essaient de revenir, voir si c'est.
Exactement. Voilà, c'est... Tandis que dans Ascension, il n'y a rien qui pousse les êtres humains à quitter la planète.
Ils partent coloniser, finalement.
Ils partent coloniser. Puis aussi, c'est que c'est une réalité. Je veux pas casser la bulle de personnes qui nous écoutent, mais si vous le saviez pas. Un jour, la Terre va disparaître parce que c'est une certitude que le Soleil va exploser. Donc, si on n'a pas réussi en tant qu'être humain à quitter l'espace de la planète Terre, si on n'a pas réussi à avoir cette technologie-là qui nous permet d'aller ailleurs, ben on va juste cesser d'exister, comme ça doit arriver dans plein de galaxies où est-ce que des civilisations disparaissent de cette façon. C'est le fameux, on en a déjà parlé au podcast, là, c'est le fameux, il faudrait que je fasse ma recherche, c'est justement, on a parlé d'Arthur C. Clarke, c'est lui qui avait, avec d'autres gourous de la science-fiction de son époque, ou Asimov, C. Clarke, Asimov, les deux, avaient évalué ce principe-là des civilisations. C'est Asimov, parce que justement, en 2001, c'est genre une civilisation de type... c'est l'idée que tu as des civilisations qui vont... Nous, on est même pas à zéro, là, parce qu'on... On est sur notre terre, on est encore comme on sort des cavernes, tu sais. Après ça, la civilisation de type zéro, je pense que c'est elle qui est capable de coloniser son système planétaire. Après ça, de type 1, elle est capable de son soleil, elle va maîtriser l'énergie de son soleil.
Ok.
Je vais faire mes recherches, je reviendrai avec ça parce que sérieusement, là, c'était super intéressant comme concept de science-fiction. On en reparle régulièrement, mais pas de façon rigoureuse. Là. mais c'est vraiment, t'as comme genre civilisation de type 3, ben là, t'es rendu dans la galaxie, tu sais. Puis je pense que dans Ascension, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que l'être humain devient une civilisation de. Mais ça a rapport avec l'énergie, là, qu'ils sont capables de maîtriser, mais c'est. Oui, c'est d'aller coloniser. Une autre planète. Puis là-dedans, ben, à la fin, tu sais, puisqu'on se permet de vendre la poche, on voit bien qu'ils ont réussi à maîtriser une technologie qui leur permet de faire des jumps dans l'espace, qui est le Saint Graal du voyage intergalactique, genre.
Bon, mais tout ça m'amène au résumé, alors, parce qu'on jump déjà à la fin, mais OK, je vais faire mon petit résumé de Ascension. 50 ans après son lancement en 1963, afin d'assurer la survie de la race humaine en cas de guerre nucléaire, le vaisseau spatial Ascension et les 600 passagers à son bord atteint le point de non-retour de son périple de 102 ans vers Proxima du Centaure. C'est alors que le premier meurtre à bord du vaisseau pousse les uns à se demander si la mission doit continuer et les autres si la réalité est qu'ils ont accepté toute leur vie est vraie.
The time has come for mankind to take longer strides. We must move further down the line. We must reach for the stars.
Imagine the greatest journey ever undertaken. A century-long sojourn to a new world, completed by the grandchildren of the brave souls who embarked on this adventure.
Alors, ben, raconte-moi un peu, parce que toi, donc, toi, c'est la première fois que tu le voyais, là, ou est-ce que tu l'avais vu...
Non, c'est la première fois que je le voyais, parce que je l'écoutais... J'étais malade et j'étais fiévreuse dans mon lit. Alors, quoi de mieux que d'écouter des téléséries de science-fiction?
Que d'allumer Netflix et de browser.
Et de browser. Alors, il y avait Netflix. Alors, je me suis d'abord retapé Arrested Development au complet parce que j'étais vraiment très malade et il fallait pas que j'écoute quelque chose de nouveau. Et quand ça allait mieux, j'ai commencé à écouter Sense8 qu'on avait... penser peut-être couvrir, ouais. Tu sais. Mm-hmm. En fait, c'est cette conversation-là. Puis je me suis mis à chercher ce qu'il y avait de science-fiction sur Netflix. Puis je suis tombée... il y en a quand même beaucoup, là, des trucs. Puis dans tout ce que j'avais envie d'écouter, il y avait Ascension, Sense8. Puis j'avais proposé aussi The Watchmen, qui est un projet très intéressant, qui est comme un film intéressant. Mais d'ailleurs, justement, c'est mon feeling, c'était quand je regardais toutes mes options là, pour le podcast, c'était qu'il y a... Il y a comme, on dirait, une sorte de petite vague, de mini-vague de séries sci-fi, parce que... Ben, tu vois...
Quand tu dis sci-fi, tu dis science-fiction, pas la chaîne sci-fi, donc, hein?
Non, c'est ça, science-fiction, parce que Sense8, ça a été fait sur Netflix.
Ça a été produit par Netflix.
Ouais. Produit par Netflix, on croit, oui.
C'est ça.
C'est Netflix, une production de Netflix. Mais il y en a d'autres, là, de 100, c'est CW.
Non, c'est CW, ouais.
CW. Donc,
c'est toujours diffusé, je crois que là, ils en sont à la saison 4 en ce moment, qui est sur CW.
Ils sont en train de faire la saison 3. Et puis,
et là, tu tombes sur Ascension.
Et là, je tombe sur Ascension. Dans toute mon histoire.
Trisha Helfer, Battlestar Galactica.
Mais je me rappelais que Nick m'en avait parlé, puis il m'avait expliqué c'était quoi la prémisse. Puis en l'écoutant, j'étais pas sûre que c'était ça, tu comprends? Ouais. Tu m'avais expliqué le truc, tu sais. Et puis donc, je commençais à l'écouter, puis j'ai eu du plaisir plus que Sense8, qui, je pense, est supérieur d'une certaine façon, parce qu'au niveau du jeu des comédiens, des intrigues, Sense8 est plus profond et plus subtil.
Ouais.
Ceci dit, Sense8, ils finissent par nous emmerder parce qu'on a envie de leur dire « OK, ça va, j'ai compris, là, j'ai compris le truc, j'ai compris les relations. » C'est un peu de téléroman, là, tu sais. Au début, tu sais, donc il y a plus de profondeur.
Oh, sérieux? Moi, je pense qu'il y avait un côté plus soap avec Ascension. Pas soap, mais...
Non, il y a un côté plus cheap avec Ascension. T'es plus dans quelque chose de Gilligan Island, à la limite, tu comprends, tu sais? Il y a un côté plus cheap. Mais moi, je pense au soap opera dans l'idée, parce que t'as peut-être pas écouté des soaps,
enfin,
toi.
Plus cheap dans l'écriture, pas dans la facture.
Non, mais dans les deux cas, la facture est belle. Mais moi, j'en ai suivi des soap opera. J'en ai écouté quand j'étais adolescente, j'ai suivi ça, j'ai écouté ça pendant des années. J'ai appris l'anglais en écoutant des Overlife, tu sais. Puis j'écoutais aussi Another World par bout, puis évidemment un peu Santa Barbara, mais pas trop. Puis bref, tout ça pour dire que le truc exaspérant avec le soap opera, c'est que tu l'écoutes, puis tu veux arrêter de l'écouter. Parce que tu sens que ton intellect est quand même capable d'expérimenter d'autres choses de sa vie, tu sais. Mais t'es comme accroché à ces petites intrigues-là, les personnages, tu sais. Puis c'est toujours la même chose. Puis c'est ça un peu ce qui va se passer. Puis c'est répétitif. Puis c'est agaçant pour ça, tu sais.
C'est agaçant. Puis en même temps, c'est facile. Puis en même temps. C'est comme du bonbon.
Oui. Puis en même temps, t'es comme accroché. Tu veux savoir si la curiosité humaine, qu'est-ce qui se passe, c'est les potinages, c'est les commérages, ça devient tes amis, ça répond à un besoin très, très humain de faire partie d'une communauté, puis de t'attacher à des gens. Puis en plus, c'est formidable parce que ça t'implique pas. T'es juste le voyeur qui regarde, tu sais. Et donc, du coup, Sense8 m'a donné plus cette impression-là, parce qu'à un moment donné, c'est juste... C'est comme du remplissage, on dirait. Là. À un moment donné, on a envie de dire, là, regarde, t'aurais pu me scinder ça en 3 épisodes, mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que l'idée est extraordinaire, c'est partout dans le monde, c'est plein de personnages qui, à l'image des créateurs, sont atypiques, tu sais. Tandis que... Mais pourquoi j'ai pas voulu qu'on parle de Sense8? C'est parce que le problème avec Sense8, c'est qu'ils ont fait une saison. Je suis pas sûr encore jusqu'à quel point c'est de la science-fiction, ça serait pas quelque chose de fantastique. Je tends à croire que c'est de la science-fiction, mais je suis assez sévère là-dessus, là, quand on fait le podcast. Je veux pas qu'on tombe. D'ailleurs, on était supposé parler de trucs de de zombies. Hein.
C'est vrai, ouais, ouais, il y avait le débat. Oui, oui, le débat, le fameux débat sur les zombies. Ouais,
il faudrait réécrire à cette demoiselle qui voulait qu'on débat. Je suis prêt. Mais c'est ça, je suis assez sévère parce que je me dis, tant qu'à faire un podcast sur la science-fiction, il faut vraiment qu'on soit. Qu'on respecte un peu c'est quoi la notion de science-fiction. Après ça, on fera d'autres podcasts un jour sur d'autres trucs qui nous tentent. On se laissera plus aller dans des hors-séries. Et du coup, Sense8, j'avais un petit doute. Donc, dans le doute, je préférais attendre. Puis aussi, je pense que ça serait plus intéressant d'en parler quand il va y avoir une deuxième saison. Tandis que Ascension, c'est comme mort dans l'œuf. Et puis, je trouvais ça intéressant d'aller parler d'un truc, ce qu'on fait jamais. Okay. Ce qu'on fait toujours, c'est qu'on va parler des trucs excellents qu'on a adorés, ou on va parler des trucs qui ont marqué, vraiment, ou des trucs qui étaient tellement mauvais que c'est drôle d'en parler.
Ouais.
Mais parler d'un truc moyen qui va probablement jamais comme émerger.
Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Puis,
en fait, ce qui va se passer avec Ascension, c'est que dans 10 ans, et peut-être que ça sera moins, il y a quelqu'un qui va faire un remake, parce que l'idée, elle est magnifique.
Ouais, c'est vrai.
C'est une idée magnifique, magnifique, magnifique. Moi, je l'aurais tellement fait différemment que ça, là. Je l'aurais fait tellement plus à la Mad Men, là. Tu sais, genre, il y avait tellement plus de potentiel de
D'ailleurs,
faire.
C'est très comparé à Mad Men dans l'espace, là.
Ben oui, je sais, mais tant qu'elle est à l'époque de Mad Men, puis que tout le monde a vu Mad Men, c'est facile. T'as pas besoin de rien expliquer, puis t'as juste à refaire le même principe. C'est comme, tu sais, je veux dire, sur le bateau, sur le vaisseau, là, il devrait être 10 fois plus sexiste, 10 fois plus raciste. Il devrait avoir comme le noir, il devrait pas être un officier. Là, il y en avait pas.
Non, c'est vrai que oui. C'est étonnant d'ailleurs pour cette société qui s'est comme arrêtée à 63, là, qui n'a pas vécu les...
Puis pour qu'une société évolue, il faut qu'il y ait du monde dans la société pour la faire évoluer. Ils ne sont pas assez.
Et il n'y a pas eu tous les événements qu'il y a eu, la libération sexuelle, tout ça. Donc, oui, effectivement, c'était étonnant que le sexisme et le racisme soient finalement mis de côté. Là. Enfin, il y a un peu de sexisme, il y a pas de racisme.
Ben, il y a un peu de sexisme, mais c'est un sexisme qui est très moderne d'une certaine façon.
Oui, on sent des petits restes.
Tu sais que quand Star Trek est sorti, OK, c'était supposé être une femme médecin, une femme qui était seconde, là, tu sais.
Ouais.
Le docteur McCoy était supposé être une femme.
Ouais.
OK? Puis, il y avait un extraterrestre qui était... Spock. Et les directeurs du réseau ont dit « c'est too much, là, t'as un extraterrestre, donc un autre race, ouais. OK? » Donc, tu sais, Spock représentait une autre race qu'un humain qui pouvait avoir une humanité. Puis en plus, t'as une femme qui est deux secondes, t'as choisi un des deux, donc ils ont gardé l'extraterrestre, tu sais. Mais c'était même pas imaginable qu'il y ait une femme qui soit médecin dans le futur, tu sais.
Ouais.
Alors, imagine... Là, ils ont la femme médecin, ils ont l'émancipation de la femme, puis ça rend ça pas intéressant. Parce que ce qu'on aime d'une science-fiction, c'est quand qu'ils vont jouer sur ces affaires-là, ces stéréotypes-là. Puis l'idée de prendre une société qui a réévalué, qui va mettre vraiment différemment, mais à partir de la même époque, mais fermée, qui évolue pas tant que ça, comment il aurait évolué, ça aurait été cette expérience-là, aurait été tellement intéressante à faire, puis ils ont complètement passé à côté en voulant être moderne, politiquement correct, tu sais, genre comme...
Ouais, c'est ça qui est étrange, parce ça, que, je veux dire, Mad Men était très connu déjà à cette époque-là. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu tomber dans la copie de Mad Men, je ne sais pas, c'était quoi... Je sais, pourtant, il y avait un exemple, très parlant, là, avec Madeleine... Avec Madeleine. Madeleine. Avec Mad Men. Et c'est bizarre qu'il soit pas rentré là-dedans de manière un petit peu plus...
Mais ça n'aurait pas été Mad Men non plus, c'est ça qui aurait été... Non, oui, ça aurait été genre... une espèce d'imagination, mais tu sais, une distorsion, tu sais, de notre monde avec une... En tout cas, je veux dire, tu vois ce que je veux dire, tu sais, les gens qui seraient partis, tu sais, ce qui aurait été les pauvres ou les travailleurs, ça aurait été des noirs, tu sais, automatiquement, tu sais, parce que c'est encore ça, la réalité, c'est ça qui est le plus horrible quand tu vas aux États-Unis, là. C'est qui que tu vois qui est dans le métro puis qui font du travail manuel?
C'est
encore les noirs aujourd'hui, donc ça répète.
C'est un gros problème encore.
Ça pourrait être une critique par rapport à la société dans laquelle on vit aujourd'hui, tu sais. Puis, ils sont comme tombés dans une espèce de Star Trek qui cache Sion, dans le sens que, tu sais, d'une espèce de futur. Tu sais, c'est... En tout cas, ça pour moi, c'est une de mes grosses critiques de la série. C'est que je trouve c'est une idée tellement magnifique, tu sais, comme de ça. Mais toi, maintenant que je suis comme partie dans mon truc, quand est-ce que tu l'as vu pour la première fois? As-tu écouté...
Bah écoute, moi je l'ai vu, je l'ai honteusement piraté à l'époque parce que j'avais pas Sci-Fi, mais j'en avais entendu parler puis ça m'intriguait beaucoup. Et puis, bah, suite à Battlestar Galactica, j'attendais un peu que Sci-Fi nous refasse peut-être quelque chose. Puis là, j'étais là, j'entends « Ah, Trisha Helfer, tu sais, intéressant, ah, mini-série, tiens, comme le début de... » Donc, ouais, j'avais effectivement honteusement, je le dis haut et fort, j'avais honteusement piraté ça.
Mais je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent, qui vivent pas cette honte, qui ont pas cette honte là.
Ouais, non, enfin.
De toute façon, vous avez pas besoin de honte, vous pouvez l'écouter sur Netflix maintenant.
Maintenant, il est sur Netflix.
Pour ceux qui ne piratent pas Netflix.
C'est ça. Et donc, et puis effectivement, j'en avais fait allusion, je pense, dans le podcast il y a quelques temps. Et donc là, je l'ai revu, là, il y a quelques... je l'ai terminé.
Mais quand tu l'avais vu
terminé
la première fois, t'avais trouvé ça comment? C'était quoi ton feeling?
Écoute, j'avais beaucoup aimé... j'avais lu donc, la prémisse de base qui était donc, cette mission qui était partie dans les années 60 pour la survie, etc. C'est super intéressant.
Basé sur un vrai projet,
En plus, basé sur le projet Orion, là, qui était inachevé, enfin, qui a jamais... ils sont jamais partis, mais il y avait cette idée, était là. Ça me plaisait beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai commencé à écouter ça, puis c'était chouette, mais ça décollait pas. Tu sais, ça prend quand même une heure et demie. Bon, ils installent tous les personnages, ils installent les intrigues, les luttes de pouvoir, enfin, la manière dont Trisha Helfer gère son petit monde, gère le politique pour que son mari reste haut placé, là, elle gère sa petite affaire. Il te place les personnages.
C'est probablement la chose la moins intéressante.
Ouais, c'est comme ça.
Cette
ligne là, un peu là-dedans.
Cette ligne là de pouvoir et tout, c'est un peu.
J'aime bien. Ça fait d'elle un personnage complexe, mais il y a des beaux moments, je trouve, avec elle.
Plus vers la fin, en fait.
Plus vers la fin, ouais, elle est comme démasquée, etc. Enfin, il y a des bons moments, quoi. Mais je m'ennuyais. Enfin, je trouvais que ça prenait un peu de temps à décoller. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la première heure et demie, qui sur Netflix est en deux parties, donc c'est à la fin de la partie 2, en fait, du chapitre 1.
C'est là que d'avoir exploité ce que je te disais aurait été plus intéressant.
Ouais.
Parce que si on était rentré dans une espèce cette espèce de truc-là, tu sais, genre pervers, une espèce de futur, comme une espèce d'évolution de personnage, puis tu sens comme avec un malaise, tu sais, on aurait resté jusqu'à la fin, puis en voyant la fin, on aurait fait « Oh my God! » Tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Enfin, continue.
Mais là, le moment où Stokes, le présumé meurtrier de Lorelai, se fait
éjecté
par le airlock, là, et que tu découvres qu'en fait, que le vaisseau n'a jamais décollé, mais qu'il est dans un hangar, enfin, qu'ils sont restés sur Terre.
Il se fait flotter. They float him. The 100, okay, ouais. They float him.
Ah oui, c'est ça. À ce moment-là, j'étais là, waouh!
Ouais.
Oh, waouh! le twist que j'avais pas vu venir.
Non, c'est ça, on le voit pas venir.
Du tout.
Ça marche, on le voit pas venir du tout. Tu sais, je veux dire, puis on est très. C'est comme, ah, qui est cool, tu sais, c'est comme, ça crée.
Et là, ça bascule dans un autre truc. Puis là aussi, c'est à partir de là, il y a comme
aussi.
Oui, absolument.
Parce que cet autre truc-là, encore là, aurait pu être encore plus intéressant si.
Ben, c'est sûr qu'ici, ils avaient exploité le contraste de manière beaucoup plus forte, c'est-à-dire que ce que tu dis, c'est-à-dire d'avoir eu une espèce de société très madmanienne finalement à l'intérieur.
Mais là, on est dans le Truman Show tout d'un coup.
Ouais, voilà.
On rentre dans le Truman Show, mais ça a été intéressant de nous ramener dans le Truman Show où est-ce que là, tu vois que tout le monde qui travaille là-dedans. Il montre un petit peu avec le personnage qui est comme... Tu sais, il gosse un peu ce personnage-là, tu sais, le fils du scientifique.
Oh, Antman, le fils, de, ouais, le fils ouais, du gars qui a lancé le projet, ouais.
Il est comme... Il y a quelque chose qui colle pas, là. C'est pas Ed Harris, là, tu sais.
Non.
Tu sais, Ed Harris dans son Truman Show, là, puis qui est comme fou, le petit qui est comme... Oui, il manquait quelque chose, un petit. Il avait l'air trop...
Il était trop businessman et pas assez...
scientifique.
Soit pas assez savant fou, pas assez... Parce que là, tu te rends compte que tout à coup, c'est une expérience sociologique.
C'est une expérience qui n'a juste pas de bon sens.
Ah oui, complètement. Mais après, tu découvres l'histoire qu'en fait, ils sont en train d'observer la petite
qui
est en train de développer des pouvoirs psychiques.
On s'imagine que c'est ces fameux enfants-là qui ont été ramassés ensemble.
Voilà. Alors, est-ce que c'est ces enfants-là qui ont été ramassés ou est-ce que c'est l'isolement qui fait...
C'est des haines qui donnent, là. Tu sais, je veux dire, parce que là, c'était supposé continuer cette histoire-là, ouais, tu sais. Ouais, ouais. Puis si ça l'avait continué, ben ça aurait été justement cette idée-là que ces enfants-là ont été comme ramassés un peu partout, puis qu'ils ont comme fait faire des bébés ensemble,
ouais.
Puis qu'il y avait des pouvoirs dont son fameux pouvoir à elle, là, qui a l'air d'être... Elle a un petit côté mutant, là, X-Men, là,
tu sais. Ouais, c'est vrai.
Puis je sais pas si on donne un traitement, s'il y a eu des choses qui ont fait qu'elle devienne comme elle est, mais c'est en tout cas bref, il y a des pistes là, de ce que ça pourrait être. Après ça, sera, on le sait pas là, parce qu'il y a pas de suite là.
Donc en fait tout ça pour dire que j'ai aimé ça. C'est inégal, il y a des choses qui me gossent un peu, je trouve qu'il y a des longueurs, mais globalement j'ai bien aimé ça. J'adore la prémisse de départ, enfin j'adore le projet de départ qui est basé sur cette réalité, enfin, c'est mm-hmm. sur ce projet qui a existé. Et puis la twist au milieu là, qui fait que ça c'était le moment clé vraiment.
Au tiers là, en fait.
Ouais, au premier tiers. Ça premier c'est vraiment tiers. Le moment clé.
Puis après ça, la fin est intrigante aussi, mais oui. Pas tant que ça, mais quand même intrigante. Mais on n'est pas assez attaché au personnage.
C'est ça.
Puis tu sais, je veux dire, le seul qu'on est attaché, selon moi, beaucoup, c'est celui là qui est tombé. C'est quoi ce pauvre?
Ah, ouais. Stokes.
Stokes.
Ouais.
Lui, je suis curieuse de voir comment il vivrait le monde, tu sais, ouais. À découvrir, parce que lui, il part à la découverte du monde, puis comme il a sa quête, tu sais. Puis il va être méfiant puis parano parce qu'il a bien vu que, en tout cas, il était, lui, il avait quelque chose qui me plaisait bien. Puis je trouve que c'est un des personnages les plus intéressants de toute la série, tu sais. Après ça, tu sais, genre, il se débarrasse des deux femmes à la fin, c'est-à-dire sa bosse puis la policière.
Ça, c'est choc, la manière dont il élimine la policière aussi.
La policière, ça, c'était bon. Elle était intéressante, mais j'étais déçue de l'avoir mourir. Je l'aimais bien.
Ouais, mais ils sont brutalement débarrassés. J'ai pas vu venir non plus.
Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, tu vois, c'est pas pire qu'ils avaient le don pour ça, tu sais, mm-hmm. de pas. Mais aujourd'hui, ça a l'air que depuis Game of Thrones, il faut pas que tu vois venir le coup.
Ouais.
C'est comme la nouvelle TV, tu sais.
Ouais. C'est comme entre ça Game, of Thrones, comme entre Game of Thrones et Walking Dead, c'est comme... Tu dis que quasiment n'importe qui peut mourir, tu sais.
Ouais,
et c'est bien, finalement, parce que ça te tient en haleine, tu sais.
Ben oui, parce que t'es vraiment dans une espèce...
Tu t'attaches à des personnages, mais souvent, on ne donne pas de chance.
Puis... Mais donc il y avait, tu sais, c'est comme mitigé, c'est pas terriblement mal écrit, tu sais.
Non.
Mais il y a comme, tu vois,
les dialogues sont so-so par moment, mais globalement, je trouve ça tient la route.
Il y a quelque chose en fait que je trouve dommage, parce que avec ces qualités-là, c'est quand même une série qui a eu 1,5 million et tout. Ça aurait été intéressant peut-être qu'il la continue pareil. Le risque qu'ils ont pris, c'est que c'était pas des, il y avait pas de ceux qui ont parti ça, c'était pas très connu, là. C'était pas, tu sais, comme Battlestar Galactica, le gars qui était le showrunner, c'est quand même un gars qui avait fait Star Trek avant, puis qui avait fait Deep Space Nine.
Il y a ça, et puis attends, Galactica, c'est basé sur une propriété existante.
C'était
là.
Un remake aussi, tu sais.
Ouais. Alors que là, tu pars de rien, c'est un truc original, ce qui est louable, ce qui est génial. Moi, j'étais content de voir quelque chose de différent, là, d'original.
Le gars qui a lancé ça, lui, il a fait une bande dessinée, si je ne me trompe pas, à la
non,
base.
Ben, non, il y a le producteur de Smallville aussi, non?
Oui, mais lui, c'est le producteur exécutif, là. Adrian Cruz, c'est lui qui a écrit une bande dessinée, un graphic novel Seeds, publié chez Metal Hurlant. Et à la base, lui, il n'a pas une... C'est comme un peu son projet, puis lui, il n'a pas une grande expérience, là. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment du monde qui n'était pas si connu que ça, qui n'avait pas tant d'expérience que ça, Ascension. Et donc, vu la qualité de ce qu'il avait fait à leur niveau d'expérience, moi, à la place de sci-fi, j'aurais donné une chance au show. Je les aurais peut-être mis avec du monde de plus d'expérience. J'aurais peut-être été plus sévère là, comme dans la production, mais j'aurais donné une chance au show parce que, tu sais, c'est quand même original et tout. Puis après ça, tu sais, tu crées une franchise puis tu peux la, elle peut évoluer là. Tu sais, je veux dire, Star Trek Next Generation, la première saison, c'était comme ordinaire là. T'sais.
Ouais, mais là aussi, je veux dire, il partait d'une propriété existante à succès.
Ben oui, mais
avec un following énorme. Là, de nouveau, c'est différent. La donne est différente. Puis aussi, on n'en a pas encore parlé, mais la facture de Ascension, c'est les décors. Enfin, donc, on l'a dit tantôt, là, ça a été quasi entièrement tourné à Montréal. Je veux dire, le décor Parce que c'est un décor réel, le décor, l'espèce de la grande salle principale avec l'ascenseur au milieu et puis les galeries tout autour et tout. C'est un décor qui a été construit en taille réelle, en studio. Et c'est impressionnant et ça a dû coûter bonbon.
Ben là, tu vois, c'est ça, le gros était fait. Hein?
Finalement, oui, si tu continues la série, ton décor, il est fait. Peut-être qu'après, ils ajoutent des annexes, une autre partie, etc. Oui, ils auraient peut-être agrandi la chose.
Visiblement, des petits voyages interplanétaires.
Ça aussi, oui.
Mais tu vois,
est-ce que les coûts de production étaient très élevés pour finalement une réception mitigée du public?
Ben mitigée, écoute.
Et de la critique.
Écoute, juste te mettre en perspective, il y a eu 1,5 million de gens qui ont vu ça, OK? Puis ils ont lancé des shows à 1,7 million de vues, qui était juste en dessous de 100, qui est comme une série qu'on aime beaucoup puis qui est très bonne. Je veux dire, leur deuxième saison, ils ont terminé avec 1,3 million de vues.
Ouais.
Tu sais, mais c'est CW qui a peut-être pas les mêmes attentes que Sci-Fi.
C'est ça.
Mais tu vois ce que je veux dire? Tu sais, je veux dire, c'est quand même... C'était loin d'être un échec, là, tu sais. Puis je trouve que... Je ne sais pas ce qui s'est passé là, dans les coulisses. Là. Peut-être que Nathan Drew Andrews était vraiment
trouver,
pas fin, puis que le producteur il a dit tu te prends pour un autre, mon petit gars, je vais te montrer c'est quoi la TV, puis tu l'as coupé. T'sais. Moi, je suis convaincue que. Puis en plus, imagine, c'est pour ça que je te parle de la franchise. Il y a une bonne idée et tout, il la part. Imagine le remake dans une dizaine d'années que tu peux faire avec quelque chose comme ça. Tu vois ce que je veux dire? T'sais, comme,
je sais pas.
Bon, après ça, est-ce que tout est obligé de se faire? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui pleurent Ascension? Il y a beaucoup plus de gens, je pense, qui pleurent la fin de Jericho
d'Ascension. C'était sympa, Jericho.
Il va falloir qu'on le fasse un jour, Jericho.
Ouais. Courte série, mais fort sympathique.
Qui a duré plus longtemps qu'Ascension.
C'était très cheese, mais c'était chouette.
Non, c'était... mais l'idée était bonne.
Ah, oui, l'idée était bonne. Mais il y avait
les personnages étaient le fun aussi.
Il y avait un truc très cheese dans cette série.
Mais tu vois, c'était bien écrit. Les personnages étaient plus crédibles. T'sais. Là, les personnages dans Ascension sont moyen crédibles. T'sais. Ils sont clichés. La fille qui va tromper son mari avec un gars, puis après ça, le gars, il s'en rend compte, puis il est fâché. Puis, tu sais, ils vivent sur un vaisseau. Tu sais, t'as pas l'impression qu'ils vivent sur une espèce de vaisseau qu'ils se connaissent tous, puis où est-ce qu'il y a comme une espèce de truc bizarre, une sorte d'entente qui aurait pu se développer sur les relations sexuelles, parce que t'as tellement pas de monde, puis tu sais qu'à un moment donné, il faut juste que t'acceptes que les choses se passent pas comme tu veux, puis que... Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de réflexion à... C'est cliché, là. C'est soap opera, là, tu sais. Où les filles qui sont comme... tu sais, qui deviennent toutes des prostituées, finalement, quand elles sont des belles filles. C'est comme pas subtil, là, tu sais. C'est un peu ordinaire, là, tu sais.
Ouais, puis à côté de ça, t'as des idées intéressantes où les couples sont matchés par par ordinateur. La même chose pour avoir un enfant, tu sais. Tout est décidé par un ordinateur.
Ouais.
C'est terrible, là, mais en même temps, il y a des trucs intéressants, cette espèce d'évolution
mariage
bizarre. D'évolution bizarre due au fait que cette espèce de société fermée, là, cette petite société fermée. Puis,
Mais la partie science-fiction est bonne dans cette série-là.
Ouais.
C'est pour ça que moi, j'aurais aimé ça que ça continue, parce que la partie science-fiction est excellente. Mm-hmm. Le fait que le gars fasse des cartoons, peut-être que c'est là qu'il y a un problème, parce que c'est comme un truc qui vous laisse peut-être se taper un truc à la Battlestar Galactica, genre, là, que tout le monde cherche à recréer ce succès-là. Puis,
ben on parle aussi de survie de la race humaine, hein, finalement. On est dans le même cas de figure.
Oui.
C'est
une obsession. Hein?
Galactica, c'est après l'apocalypse et eux, c'est avant l'apocalypse.
Bon, c'est parce que c'est les enfants de la guerre froide qui sont en train de faire leur truc. Quand j'étais petite, tu sais, je me rappelle, j'avais 10, 11, 12 ans, puis il y avait la toune de Sting... où est-ce qu'il demandait à Khrouchtchev de pas... que les Russes... on peut lancer la bombe parce qu'ils aiment leurs enfants aussi. C'est quoi cette chanson-là?
Ah oui,
J'adorais cette chanson-là. Mais ça, c'était le début du réchauffement des relations. Là. Pour moi, cette chanson-là, quand j'étais petite, représentait qu'il n'y avait plus de danger parce que les gens commençaient à prendre conscience que les Russes étaient des êtres humains comme nous. Mais quand j'étais petite, c'était pas le cas. Là, t'sais, comme il y avait cette peur-là du... qu'on allait mourir dans une bombe nucléaire, là, tu sais, mais j'étais petite, là, tu sais. Mais c'est ça. Donc, nous, les enfants de la guerre froide, on est en train de faire notre TV, puis ça nous a marqué dans notre imaginaire, cette idée-là de la fin du monde. Parce que tu vois, ça revient beaucoup, là, la fin du monde. Les zombies, c'est ça. Hein, les zombies, c'est une obsession de la fin du monde. Puis moi, j'adore ça, les histoires post-apocalyptiques. Mad Max, c'est ça. Donc, on peut le dire. Mad Max, on parle d'Ascension, on parle de 100, on parle de Walking Dead. C'est quatre, le gros show, gros truc là, de sci-fi, c'est sur la fin du monde. C'est...
les chaînes, d'autres chaînes qui cherchent à créer leur Walking Dead ou leur truc, tu sais.
Oui, mais ça c'est les copycats.
Ouais, c'est ça. Mais non.
Mais sinon, ça marche, en tout cas. Ça va rejoindre un certain public, l'obsession de le post-apocalyptique, là, fin des temps. Là.
Non, parce j'aime bien le fait que ça parte dans. Alors, il y a la guerre froide. Il y avait la course à la conquête de l'espace aussi entre les Russes et les Américains, pareil, tu sais. Puis le fait qu'ils soient partis en 63, puis il y a comme toute une partie de leur vie, comme tout ce qui est médias, vêtements, tout ça. Il y a comme tout ce qui s'est arrêté dans le temps, tu sais.
Mais avec des technologies qu'eux-mêmes ont développées, qui sont devenues des technologies que sur Terre, ils ont utilisées. Ça, c'était une belle tangente. Comme le MRI, qui aurait été développé par les gens du vaisseau, puis que c'est à ça que ça,
le projet... Ah oui, c'est vrai, Alors, au moins, il explique à... C'est qui, à Warren, ou je ne sais plus à qui, ou à l'enquêtrice?
Oui, la fille
qui
enquête.
Il lui explique, telle chose, d'où croyez-vous que ça vient?
Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça que ça finance le projet, tu sais. Mais ultimement, en même temps, j'ai eu quand même...
En même temps,
eu...
ça, c'est très peu plausible.
Enfin, j'ai comme eu une pensée... Non, mais c'est parce que j'ai eu comme une pensée pour le gars qui a vraiment inventé le MRI et qui ne va pas aimer. Je voulais le trouver pour faire une mention. Faire une petite mention pour lui. Au niveau des comédiens, c'est quand même bien joué. Là, dans le texte, ils se débrouillent...
Ouais, moi, je trouve qu'il y a un cast intéressant.
Excepté peut-être justement celui que j'ai pas aimé, là, qui était le...
Jim Bellows. Ah, le fils de l'instigateur du projet.
Ouais,
en fait.
Ouais,
le
moi
fils
j'ai...
Hansman Harris.
Lui, j'ai pas aimé son jeu. Lui, je l'ai pas aimé. Je trouve que c'est un mauvais casting.
C'est-à-dire qu'il est un peu trop... je sais pas comment dire. Un peu trop dark. Un peu trop...
Il manque de quelque chose. Ouais, c'est ça, peut-être un peu trop dark.
Il est comme trop sombre,
Il aurait fallu une espèce de petit côté un peu plus.
Un peu plus savant fou.
Ouais, un petit peu plus, c'est genre comme c'est magnifique ce qu'on est en train de faire. Ouais. Tu sais, genre, puis tu sais, comme un petit côté un petit peu presque. Tu sais, j'aurais vu un.
Plus avec les étoiles dans les yeux, finalement.
Ouais,
plutôt
c'est
que,
ça.
Plutôt qu'un gars ben, sombre et étrange.
Comme Ed Harris pouvait l'être dans Truman Show, là. Tu sais, ça, c'était.
Ouais, oui.
ça, c'est le bel exemple, là. C'est comme.
Ouais, qui était comme le réalisateur artiste.
Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, espèce de rêveur qui avait créé un univers, qui avait comme. C'est genre le scientifique.
Qui était vindicatif, mais en même temps, il avait ce truc artistique un peu fou.
Ouais,
alors que là, c'est vrai qu'il est très sombre et puis finalement, il est assez antipathique.
Puis il fit-tu du monde de même.
Bon, je veux dire, il y a un côté qui m'a pas déplu dans le sens où, genre, le gars, il hésite. Il hésite pas à faire que.
Que ça marche.
Que parfois, il faut passer par des. Il faut passer par la solution extrême ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais.
Puis il y avait le côté, je me suis posé la question, je me dis, voyons, ça n'a pas de bon sens, ça se peut pas que. Des gens pendant 50 ans se rendent pas compte qu'ils sont dans un. Puis après ça, tu te dis, mais oui, mais c'est quand même le meilleur scénario pour que des gens s'en rendent pas compte parce que si c'est l'espace qui est autour de toi, tu vas pas y aller. Il y a la grande faille ultime de toutes les séries de science-fiction, c'est que. Qui vont dans l'espace, c'est que c'est clair qu'il y a de la gravité puis que c'est pas réaliste. C'est, ça, il faut vraiment que mon. Quand je vois ça, il faut vraiment que mon cerveau il fasse. OK, suspension of disbelief, là. C'est comme le son
dans
l'espace.
Ouais, il y a un moment, d'ailleurs, où ils doivent réparer quelque chose, et puis t'as l'ami, comment ça s'appelle, le Axo, tu sais, l'officier noir, je me rappelle plus de son nom, qui sort à l'extérieur, tu sais, qui regarde à l'extérieur. Quand tu le vois la première fois, tu te poses pas la question, parce que toi-même, t'es pas encore au courant de ce qu'il y a autour. Mais l'ayant déjà vu une première fois, je revois ça, puis je me dis, mais attends... C'est pas normal que là, ils voient rien, tu sais. Il y a comme... Il y a un endroit, quelque part, où, tu sais,
le dôme.
Le dôme s'arrête.
Non, mais c'est peut-être noir, pareil. Mais c'est surtout la gravité qui est le
truc.
C'est la gravité, là. Je veux dire, tu peux pas créer de la gravité artificielle sur Terre. La seule façon que tu peux faire la gravité artificielle sur Terre...
C'est le vomit comet. C'est l'avion. Ouais, c'est l'avion, là.
Donc... Là, en fait, ils n'ont pas expliqué ça.
Le vol parabolique.
Ouais. C'est ça, c'est vraiment le truc qui ne marche pas partout. C'est ça, parce qu'eux autres, ils sortent dehors pour réparer des bébelles.
Ça ne marche pas.
Ça ne marche pas, là. Ils sont comme... c'est des scientifiques, là. Ils sont supposés être intelligents, ils sont supposés savoir, là. Tu comprends, là?
Ouais.
C'est comme... Alors, à moins qu'il y en ait beaucoup qui soient dans le coup et qui ont comme inventé une histoire que le vaisseau... Tu sais, mais c'est jamais expliqué. Il y aurait
en même temps, ça, c'est un truc bizarre aussi. C'est que tu as cet énorme vaisseau qui contient 600 personnes et tu as l'impression que tout le monde est un peu monsieur tout le monde. Il n'y a pas... Il n'y en a pas qui sont astronautes dans le tas, tu sais. Ils ont tous leurs fonctions. OK, tu as le capitaine... L'autre qui s'occupe de sa gang de filles, l'autre qui est officier machin, le docteur, le truc, le ci, le ça, ceux qui bossent dans les étages inférieurs, tu sais, dans les lower decks. Mais
t'as pas d'astronaute.
Il y a pas de vrai astronaute.
Ce qui est bizarre, parce que c'est la seule chose qui aurait pu partir à l'époque, c'est un vrai astronaute, tu sais.
C'est genre, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit en charge de tout ce monde-là, tu sais, qui est l'astronaute, oui, qui a un équipage, tu sais, d'astronautes, véritablement.
C'est comme
qui soit comme finalement séparé de tout le reste. Et eux, c'est la population qui sont à l'intérieur de ce truc, la petite société.
Ce qui aurait été plus intéressant, en fait, c'est que ça, parce que là, c'est ça, c'est vraiment cartoonesque, là, ouais. Tu sais. Mais ça l'est pas assez. Si c'était plus cartoonesque, on ferait comme genre, OK, c'est cartoon, c'est n'importe quoi, tu sais. C'est comme, tu sais, un peu comme Doctor Who peut être parfois.
Ouais, ouais, ouais. Oh, c'est complètement cartoon, Doctor Who.
Oui, Doctor Who, ils vont à fond. Tu sais, justement, quand ils se promènent dans le tardi, on s'en fout, qu'il y ait la gravité ou pas, ils pensent pas, tu sais. Comme genre, c'est drôle, c'est comique, tu sais.
Ah ouais.
Puis, c'est vrai, il n'y a pas de gravité dans le tardi, tu sais, mais il y a probablement une explication parce que le tardi, de toute façon, c'est une. Tu sais, quand t'as pas vu cet épisode-là, mais t'as un épisode qui se perd dans le tardi, c'est immense, là. c'est bon. Comme. Parce que là, il y a comme est malade ou quelque chose parce qu'elle est vivante, la Tardy. C'est une femme. En plus, à un moment donné, tu la rencontres. C'est comme toute une histoire.
J'adore.
C'est magnifique, Doctor Who. Mais tu vois, c'est ça. Si elle est allée dans quelque chose de plus cartoonesque, c'est genre à la Jodorowsky, à des espèces de séries de sci-fi comme des années 70, 80, tu sais, où est-ce que ça n'avait pas de bon sens. Puis qu'ils partent sur cette prémisse-là, bon, à la limite, ça va, t'embarques un petit peu plus là-dedans, là, tu sais, un petit côté Barbarella, weirdo, 60s, kitsch, tout le kit, tu sais. Ouais. Mais ils sont pas allés là-dedans, ils sont restés dans quelque chose de plus moderne, justement, parce que comme ils n'ont pas exploré les tu sais, ils n'ont pas créé les clichés des années 60, donc ils sont restés quelque chose de moderne. Puis donc, du coup, ce qui aurait été une autre façon d'aborder la chose, c'est qu'ils te fassent un vrai vaisseau comme ils auraient pu faire dans les années 60 avec des gens qui vivent dans des conditions vraiment atroces, mais ils sont juste comme 50, là, tu sais, pas 500 parce qu'ils peuvent pas... Parce que là, ça, c'est l'autre affaire. Je sais pas si les gens réalisent là, que le vrai projet Orion, c'était probablement pas ça. Parce que de sortir des gens de la Terre, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, sortir un vaisseau de cette ampleur-là, c'est comme... C'est pas imaginable. À moins que les 50 premiers qui faisaient des bébés, eux autres le savaient, puis sont juste. Tu étais dans leur espèce. Tu comprends ce que je veux dire?
Ouais,
c'est...
Ouais, ouais.
Donc, oui, c'est vrai qu'à un moment donné, la prémisse, c'est beaucoup de convolutions, puis qu'on.
Quand tu commences à analyser le truc et à repartir au point de zéro, tu dis, OK, alors comment ils ont démarré l'affaire?
C'est ça, exactement. Donc, imagine un truc un peu plus.
Il y avait des gens qui étaient au courant, là.
Un truc un peu plus dark, où est-ce qu'ils se permettent de faire, justement, du gravity? Ils créent une espèce de vaisseau qui est plus petit avec moins de monde, puis qui te le spin tout le temps.
Ouais, qui est constamment en train de spinner, ouais,
pour c'est ça, pour montrer la gravité ou quelque chose. Ils te font à croire, là, même si c'est pas vrai, là, parce que tu sais, quand tu spins, ça marche pas de même, que les gens, tu sais, tu sens qu'ils créent quelque chose ou qu'ils te le... Mais en même temps, ta gravité sur Terre, c'est vraiment trop dur à faire. Mais à la fois que je parle de gravité, là, j'y crois plus.
l'absence de gravité, là, c'est comme...
Mais c'est ça, c'est ça qui est difficile, ouais. De créer l'absence de gravité. C'est comme on est quand même un peu pris avec ces lois-là de la physique.
C'est ça.
Là,
donc, mais malgré tout, ça reste...
Il aurait pu les envoyer dans l'espace, pareil, mais qu'ils bougent juste pas. OK. Ça aurait été intéressant.
Ça veut dire qu'ils sont en orbite, tu veux dire, ou quoi?
Oui, qu'ils sont en orbite autour de la Terre, puis dans cette espèce de bulle-là, puis qui est comme des espèces de ravitoillement. Ouais, qu'ils voient pas. Mais, ouais, c'est difficile, des fois, dans la science-fiction, le suspect, je me disais, moi, je suis quelqu'un qui a adoré Cosmos 99.
Moi aussi.
Mais c'est quand même la Lune qui quitte son orbite.
Ah ouais, c'est genre, ouais.
C'est quoi, c'est une explosion nucléaire? Qu'est-ce que c'était passé?
Je me rappelle plus, mais je me rappelle de ça. Ouais, c'était ça. C'était la Lune qui avait quitté le.
Ouais, c'est la Lune qui était l'orbite.
Qui était comme.
Qui se promenait.
Ouais, ce truc n'a pas de sens.
Ouais.
Mais c'était super le fun, pareil.
Mais qui n'a pas de sens au niveau de l'énergie que ça prend pour que la Lune quitte son orbite, là, tu sais, parce qu'elle va rester quand même dans une orbite quelconque ou elle risque d'en attraper un autre. Ben non, si elle a une vitesse suffisante, j'imagine que non, là. Mais il faut qu'elle ait une bonne vitesse. C'est qu'elle a pris une bonne accélération, qu'elle est comme... En tout cas, bref, c'est... Mais c'est ça. Donc oui, on vient de démolir un peu Ascension.
Ouais, mais malgré toutes ces choses-là, ça reste fun. Il y a comme... Le rythme s'accélère aussi au fur et à mesure que t'avances. Autant il y a des petites longueurs au départ. Enfin, en tout cas, c'était mon opinion. Mm-hmm. À partir de...
Je trouve que c'est pas super au niveau des longueurs,
mais... À partir du twist, je trouve ça... C'est comme un petit peu plus rythmé. Bon, il y a des événements aussi qui viennent ponctuer chaque épisode, finalement.
Ouais.
Jusqu'au final où c'est... avant la téléportation du EXO. C'est presque un peu too much, en fait. Tout à coup, en si peu de temps déjà, en quelques épisodes, il y aurait arrivé tellement de choses que tu te demandes ce qu'ils auraient pu faire après, finalement. Où est-ce qu'ils seraient allés à partir de là, s'ils avaient continué une saison complète?
Ben, moi, je pense qu'il y aurait...
J'imagine que, voilà,
en
bon scénariste, tu trouves toujours de quoi faire, mais...
Il aurait exploré leur idée des voyages...
Des voyages...
intergalactiques.
Ouais, spatio-temporels, je pense.
Il aurait exploré le gars qui, lui, essaie de retourner puis de prévenir tout le monde puis qui n'arrive jamais à rentrer...
À Stoke, tu veux dire?
À Stoke, oui. Ouais, ou peut-être pas. Peut-être que lui serait... Mais tu sais...
Parce qu'il commence aussi à l'intérieur du vaisseau où tout à coup, tu sais, il commence à voir des trucs bizarres à la télé parce qu'il capte des signaux il voit Alf, c'est hyper drôle.
De toutes les choses qu'il voit, il faut qu'il voit Alf. J'ai trouvé ça mignon, là.
Ça, c'était vraiment cute.
Il se pose pas la question, quoi. Pourquoi il y a un extraterrestre à la télé? C'est ça qui arrive.
C'est quoi ce truc? D'ailleurs, il se dit, c'est quoi ce truc? J'ai jamais vu ça. Mais ça, c'est intéressant aussi. T'es tout à coup, alors t'imagines que les gens commencent à se poser des questions. C'est cool. Imaginez que les gens découvrent que... c'est une des choses terribles, c'est qu'imaginez que tous ces gens découvrent que leur réalité, c'est pas vrai.
Puis
c'est la réalité qu'ils vivent depuis 50 ans.
Trucs qui étaient quand même assez intéressants, mais j'étais pas sûre non plus. C'était le fameux no future, tu sais, le black crise gens vivaient. Mais c'était comme de supposer... Mais ça, c'est un truc, tu vois, c'est tellement moderne. Je pense qu'ils ont pas assez réfléchi. Ça manquait peut-être un peu de finesse au niveau intellectuel. Ils ont pas assez réfléchi avec le fait que dans les années 60... Cette idée-là qu'aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut, puis tatata, c'est tellement moderne. Là. Même dans les années 60, les gens ne vivaient pas cette réalité-là. Là. Non. Dans les années 60, les femmes pensaient qu'elles devaient se marier puis avoir des enfants. T'sais. Les hommes pensaient qu'ils devaient avoir une carrière, puis être un pourvoyeur, puis une carrière, il fallait que ça soit comme... L'important, c'est d'avoir une bonne carrière puis une bonne job. Puis souvent, c'était comme dans ton milieu. Là. Si tu étais un fils de médecin, tu devenais soit médecin, soit avocat, peut-être ingénieur. T'sais. Puis si tu étais... un gars de chat, tu devenais un gars de chat, tu n'avais pas cette espèce d'obsession. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Tu n'avais pas cette espèce d'obsession-là aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde fait comme des parcours atypiques. Puis, tu sais, je veux dire, moi, j'en connais pas grand monde là, qui ont étudié en X puis qui sont Y. Là. En fait, ils sont tous Y, ils ne sont pas X. Là, genre, okay, comme, j'exagère, là, mais tu vois le petit côté genre. Start-up, là, qu'on peut se réinventer, qu'on peut se recréer, les espèces de gourous de « trouve ton bonheur ». C'est fatigant, c'est super épuisant, là. Moi, je suis rendue dans ma vie que je veux juste une petite job pépère, là. Je veux plus me réinventer, je veux plus me recréer, je fais du cinéma, de la production, puis d'attitude, là, chez moi, tu sais. Mais bref, je trouve que ce petit côté-là, No Future, il y avait encore là quelque chose de peut-être un peu moderne, mais tu sais, c'est ça, la danse avec la sci-fi, ce qui est difficile, c'est que tu critiques toujours la société dans laquelle t'es en te projetant dans le futur. Mais eux autres, ils se sont projetés dans le passé. Ils se sont vraiment mis quelque chose de difficile, donc ça aurait pris plus de finesse, tu sais. Je pense plus de réflexion, plus de finesse.
T'es dans le future past, comme ils disent.
Il était comme au milieu de plein de bonnes idées.
Le futur passé.
Le
passé futur.
Il y a comme un côté uchronie là-dedans, tu sais.
Parce que finalement, ils vivent...
Mais c'est ça, c'est une uchronie.
T'es dans le futur que,
non, c'est une uchronie,
que les gens de l'époque s'imaginaient alors qu'on est passé au-delà de ça.
Mais on est dans... Ça se passe aujourd'hui, en fait, tu sais.
Ouais.
C'est limite une science-fiction quand tu y penses, mais c'est l'idée que le projet Orion aurait vu le jour. Puis en fait, ça n'aurait pas été vrai projet Orion, ça aurait été un projet Orion détourné par des scientifiques fous qui font une expérience de... Anyway, donc, mais tu sais, en plus, on le sait là, qu'il y a des vrais problèmes au voyage interspatial, là, donc c'est dur à croire que dans les années 60, il aurait pu partir.
C'est ça, ouais.
Un vaisseau. Tu sais, aujourd'hui, on peut même pas envoyer du monde sur Mars sans leur dire, bon, ben, bye, puis voilà aussi ta chimiothérapie, puis ta radiothérapie, puis tes traitements contre le cancer. Tu fais un peu de thé vert avec ça parce que tu vas arriver sur Mars, puis tu vas être probablement en train de mourir, tu sais, quelques années plus tard. Tu sais, c'est que vraiment, who wants to die?
Ouais.
Tu sais, il n'y a pas de. Si j'ai bien compris les effets de la radiation dans l'espace, c'est comme pas évident. Tu sais, ça fait partie des gros problèmes des voyages interspatiaux. De sortir de la... Tu sais, comme aller sur la Lune, ça va. Là, c'est comme genre un week-end. Là, tu pars puis tu reviens. Là, mais ben, aller sur Mars, c'est une coupe... C'est quoi? Ça prend... Mais c'est long.
Tiens, on va s'écouter un petit extrait, là. C'est le moment.
OK.
Doesn't live up to your expectations.
Reading about it is one thing.
So you notice something else entirely. It's hard to imagine a world without civil rights, a sexual revolution.
Vietnam, 9/11, those earrings that look like hockey pucks.
Are people like me?
Homosexuals. They were left out by design. Not a matter of prejudice, you understand, purely practical. Anyone who intentionally avoids procreation would just be superfluous.
Superfluous or not, I'm guessing there's a few in there. We tend to pop up where you least expect us.
Mais donc, Ascension m'a donné le goût quand même de voir toutes ces petites séries, toutes ces petites séries télé-là qui sont de science-fiction. Puis ben, je suis embarquée dans The 100, mais là, ça va, là, je suis comme rendue à la saison 3. Moi, je suis pas comme toi, là, j'écoute pas deux épisodes. Là, quand je commence un truc, faut vraiment que ça soit mauvais pour qu'une série, je l'écoute pas au complet.
Ben, parce que le problème, c'est que je vis pas seule avec pas plein de temps, parce que je dis pas que t'as plein de
t'as
temps.
T'as raison,
mais
t'es pas pathétique contre moi. Tu peux tout à coup te poire, tu peux.
Oh, mais des fois, j'aimerais bien pouvoir binge-watcher comme mais ça. Fois, j'aimerais bien.
Ça, c'est le...
Vraiment. Là, The 100, j'aimerais ça, de voir plus souvent, tu sais. Mm. Mais bon, il y a ça, puis il y a aussi le fait que je regarde d'autres séries, donc c'est. J'ai choisi.
Ouais.
Ou alors tout à coup, je vais voir tel ou tel film, tu sais.
Moi, j'ai envie de me taper tout ce qui est de science-fiction et tout. Là, je me rends compte que j'en ai quand même une coupe à me taper. Mais j'ai du plaisir à écouter The 100. C'est sûrement une série qu'on va faire un jour. Ça vaut la peine. C'est plus solide que Ascension. Là. On est dans quelque chose un peu plus...
Plus maîtrisé.
Paradoxalement, je trouve que la proposition de science-fiction est moins intéressante. Mais là, on vient de démolir pas mal la proposition d'Ascension à cause de la gravité.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je pense que le fait que Ascension, ça nous parle plus, peut-être comme prémisse, c'est le fait que c'est plus, entre guillemets, réaliste. Il y a quelque chose de comme possible.
Ben, c'est toute la théorie des conspirations aussi. Il y a quelque chose qui a lieu qu'on ne sait pas. Okay.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'alors que The 100, ça se passe dans je ne sais pas combien de siècles. Là, tiens, je veux dire.
Ouais, là, c'est comme ça pourrait être dans 100 ans, là.
Voilà, c'est genre de l'extrapolation.
Ben, ça se passe comme dans 100 ans plus 100 ans. Il y a, y a comme une guerre nucléaire. Ben, on va le voir. Là, dans la troisième saison, on voit plus la... Non, ça, en fait, la guerre nucléaire, elle aurait comme eu lieu là. Puis évidemment, c'est causé par des gens qui font des startups, là, quelque chose du genre, là.
Ouais.
C'est le feeling que j'ai en regardant les deux premiers épisodes de la dernière saison là, qui est en cours. Là. Mais c'est les obsessions de notre temps.
Écoute, on a pas mal fait le tour, je pense. C'est ça, moi j'ai eu du plaisir à le revoir.
C'est une super série à écouter quand on a la grippe.
C'est pas très long.
Ça dure long.
C'est ça, 3 fois, 1h30.
Ouais.
Puis ça est disponible entièrement sur Netflix.
Ouais, cool. On s'emmerde pas vraiment là. Peut-être au début c'est un peu long, mais on s'emmerde pas vraiment.
Ouais, mais quand ça part, c'est bien. Ça part après la fameuse twist là qui arrive super bien.
Mais je te dis, ce qui va être intéressant, c'est que quelqu'un de plus subtil en fasse un remake, ça pourrait être bon.
Quelqu'un va comprendre le concept et l'améliorer,
ouais. Ou
l'approfondir.
C'est peut-être mort dans l'œuf.
Ouais. Ben voilà. En tout cas, on aura.
On croit pas une suite en tout cas.
Non, probablement pas. Ben voilà, on arrive au bout. La prochaine fois, on a décidé de faire Westworld, le film culte. Est-ce que c'est un film culte? Je sais pas, mais enfin, en tout cas, c'était un film marquant des années 70, écrit et réalisé par Michael Crichton. Crichton, je crois que ça se dit.
On dit Crichton?
Je crois que ça se dit Crichton. Ouais.
Ben, c'est écrit Crichton.
Je sais, c'est écrit Crichton.
Crichton,
ouais.
Même, pour être plus français. Ouais. Alors,
auteur notamment de Jurassic Park et plein d'autres.
Michael Crichton. Réalisé et écrit par Michael Crichton.
Voilà. Et avec Yul Brynner, on se rappelle de ça tous.
Moi, je pense que c'est culte pour certains gens qui avaient la télévision dans les années 80.
Peut-être.
Tu sais, comme 70, puis ça passait à la télé plusieurs fois. Puis c'est comme l'événement, il y avait les annonces, puis c'était super excitant. Puis c'était... C'est une époque où est-ce que le western était comme mort, mais c'est comme une façon de regarder. Puis on voyait plein de westerns à la TV aussi. Ouais. En tout cas, je pense que c'est culte pour certaines personnes.
Probablement. En tout cas, ça fait une éternité
mais
que je ne l'ai pas revu.
C'est pas culte comme Blade Runner que de génération en génération, les gens ont réécouté ça ou 2001, que ben, t'es obligé de le voir quand tu fais tes cours de cinéma de toute façon. Quel autre film culte? Alien, tu sais, qui est devenu parce que ça date de 73. Alien, ça a été fait en 79.
19.
79. En même temps que Star Wars, 79.
Juste après.
juste ouais, après. Si je me trompe pas. Ben, c'est un peu la même chose. Donc ça, c'est vraiment... Westworld, c'est comme c'est de la vieille science-fiction là. C'est ouais. Avant Star Wars, c'est avant. Mais c'est brillant, c'est intéressant, c'est.
Ben ça va être chouette de se replonger dedans. Moi, franchement, j'ai des vagues souvenirs. Ça fait très 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 longtemps. Et alors l'occasion aussi, c'est parce que ben cette année normalement il y a une série qui commence, il y a une bande-annonce.
2016.
Il y a une série qui arrive 2016, sur HBO là très bientôt.
Très bientôt. Ils disent pas quand.
Donc ça va être l'occasion là, de revenir là-dessus.
Ils disent en 2016. Donc, 2016, c'est peut-être cet automne, mais là, tu as une belle bande-annonce qui donne le goût.
Ben, on se réjouit d'en parler la fois prochaine. Si on veut te retrouver entre-temps, tu es sur Twitter, Marie-Lou Gariepi.
Ouais.
Tu es sur Facebook.
Facebook, Twitter. Je suis moins médias sociaux, c'est ainsi parce que...
Tu dis chaque fois ça.
J'ai ça avec toi. Ben, j'ai déjà été une diva queen des médias sociaux quand ça sortait, okay. Là, tu sais, mais... Okay. Bon, si quelqu'un m'écrit sur Facebook, je vais finir par aller voir dans ma boîte des gens que je connais pas, là. Puis je regarde ce qui se passe sur 24, quoi que ça.
Ouais. Quand c'est bien, on a des petits commentaires, des petits trucs.
Ben voilà,
c'est
je suis ça, etc.
Moi, je suis sur Twitter à Stedinic, sur Facebook Nicolas Petzilas. Si vous voulez voir des photos de mon voyage en Asie du Sud-Est, c'est la raison pour laquelle vous nous avez pas entendu pendant tout ce temps. C'est parce que j'étais pas là, j'étais en voyage très loin avec toute ma famille.
Et je sais que j'étais très occupée. J'avais espoir de pouvoir faire
un épisode toute seule, en tout cas sans moi, on va dire.
Ouais, mais c'est ça, je cherchais un truc, mais finalement, j'ai tellement été occupée moi-même pendant que tu étais partie, j'ai pas arrêté une seconde. Donc,
c'est pas grave, on va reprendre le rythme là maintenant qu'on est.
Ouais, mais Westworld, je me réjouis de le faire. Mais tu dis, on va reprendre le rythme, mais moi, je pars une semaine, après ça, un mois, après ça.
On va au moins
pourra en faire un, peut-être quand on va être.
Oui, c'est ça, oui, parce que cet été, on va être tous les deux en Suisse ensemble, on va peut-être s'organiser un petit truc sur place là-bas, on va faire de quoi enregistrer là-bas, ça sera fun.
Pour pas lancer de rumeur, je voyage avec la famille et la femme de Nick, hein. Je dis ça que je dis. C'est organisé.
Ouais. Hein. Ouais, c'est organisé.
Lâchez vos potins, c'est rien du genre.
Ouais. Pour vous abonner à ce podcast, bien sûr, c'est sur notre site 24quarks.com ou sur iTunes. N'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire, un rating, tout ça. On aime ça. Puis ça nous permet de nous faire connaître à d'autres aussi. Mm-hmm. Et suivez-nous sur Twitter @24quarks, sur la page Facebook aussi. Et pour nous écrire 24quarks@gmail.com. On reçoit du courrier de temps en temps. C'est très agréable. Là. Faudrait peut-être qu'on commence à le lire à l'antenne aussi, peut-être.
Faudrait.
En guise de remerciement aux gens qui prennent le temps de nous écrire. Et tout. En tout cas, c'est très apprécié. On a eu des recommandations de livres de science-fiction, on a eu plein de choses super gentilles là. Donc n'hésitez pas à le faire, même si c'est pour nous critiquer d'ailleurs, même si c'est pour nous pour réagir violemment, c'est pas grave.
Si c'est pour nous critiquer, tu mets forward celui-là, je m'en occupe.
Et donc c'est ça. La prochaine fois, c'est Westworld. On va se quitter avec la bande-annonce du film. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Bye bye.
Bye.
Your attention, please. We will soon be landing at Westworld, the ultimate resort.
We have you on grid 5, over.
It consists of 3 worlds of the past.
Locking in now.
Worlds where you can live out your every fantasy. There's Roman world, the lusty, decadent delights of imperial Pompeii.
Notify ground crews.
Medieval world, chivalry and combat in 13th century Europe. And Westworld. Lawless violence on the American frontier of the 1880s.
Bacon, cinnamon toast.
Each resort is maintained by reliable computer technology and peopled by lifelike robot men and women.
Let's stand by for resort activation.
Our robots are programmed to provide you with an unforgettable vacation.
Dinner at 7, breakfast at 6:30. Get lunch on your own. Don't look like much here, but we have everything.
You mean to tell me he's a robot?
Many elements of the Delos Resort are potentially dangerous. That's part of the appeal.
Go on.
You say something, boy.
Kill them.
Our technology is designed to provide all this in complete safety. In Westworld, frustrations find release. Desire ends in satisfaction.
Let me handle it.
And all in a controlled environment.
That's not supposed to happen.
We know you'll enjoy your stay in Westworld.
Hold it.
The ultimate resort.
Let me do it this time.
where nothing can possibly go wrong.
I'm shot.
Go wrong.
Raw.
Go wrong.
Oh, my God.
Shut down. Shut down immediately.
Program complete.
Get away from her, you bitch.
Shall we play a game?
24 secondes.